Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous recevons Renaud Lifschitz, avec qui nous allons parler d'informatique quantique. Et pour discuter avec lui, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Éric Fraissinet.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Vladimir Collat.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Ulloa. Alors Renaud, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement ?
Oui, je suis consultant et chercheur en sécurité informatique chez Digital Security.
D'accord, Renaud. Alors, quand on parle d'informatique quantique, de quoi parle-t-on exactement ?
Alors, l'informatique quantique est basée sur la physique quantique, donc avec des règles assez étranges. En physique quantique, le principe de dualité, le fait que, par exemple, une toute petite particule soit à la fois une particule et une onde. Le principe de superposition, qui fait qu'en fait, les caractéristiques physiques d'une toute petite particule, donc un atome, un électron ou autre, sont pas déterminées à la création de cette particule-là, mais en fait, sont déterminées lors de la mesure. C'est-à-dire que quand une particule élémentaire en physique est créée, elle est dans tous les états à la fois, et c'est au moment où on fait la mesure, où on va forcer un de ces états à se matérialiser. Et donc, c'est ce qu'on appelle la décohérence, le passage d'un monde en fait où les états sont superposés, un monde quantique, à un monde classique tel qu'on le connaît, où les caractéristiques physiques ont des valeurs bien déterminées.
Alors justement, le monde est quantique autour de nous. Qu'est-ce qu'on rajoute au juste pour dire que c'est de l'informatique quantique ? On va exploiter ces caractéristiques d'une certaine façon ?
Voilà, c'est tout à fait. On va exploiter donc notamment le principe de superposition pour faire tout un tas de calculs en parallèle. Alors, il y a évidemment aussi des points qui sont bloquants. Par exemple, une chose aussi simple que copier une variable dans une autre, en informatique, c'est évidemment très très simple. Là, le fait de mesurer une variable, en quelque sorte, va la modifier. Puisqu'on passe d'un état de superposition où la variable peut prendre plusieurs valeurs à un seul état. Donc copier par exemple une variable quantique, ça va pas être simple du tout. Donc on a des blocages aussi fondamentaux que celui-ci. Mais passer outre ces blocages-là, ce qui est très intéressant, c'est que quand on va faire des calculs avec des variables quantiques, en fait on va réaliser en quelque sorte en parallèle tous les calculs possibles avec toutes les valeurs possibles de ces variables ou de ces registres.
C'est ce qui rend les ordinateurs quantiques plus rapides que les ordinateurs classiques binaires ?
C'est ce qui pourra rendre les ordinateurs quantiques effectivement beaucoup plus rapides, puisque quand on envisage un bit en informatique, il peut prendre la valeur 0 ou 1. En informatique quantique, on appellera ça un qubit, donc un bit quantique, et il aura à la fois la valeur 0 et 1, avec des probabilités qu'on peut fixer, donc généralement on va se fixer 50 et 50, parce qu'on ne sait pas à l'avance sur quoi on va calculer. Mais quand on réalisera ensuite des opérations logiques, puisqu'on va pouvoir réaliser des opérations logiques, des « et », des « ou », de la même façon qu'on fait avec de l'algèbre booléenne en informatique classique, on réalisera en fait toutes les opérations logiques à la fois. Donc typiquement, si j'essaye par exemple de déchiffrer un message, j'implémente un algorithme de déchiffrement, je déchiffrerai le message avec l'ensemble des clés possibles si j'ai mis la clé dans un état de superposition au préalable.
Ouais, pour faire un parallèle avec les microprocesseurs classiques, c'est presque de la prédiction de branchement plus.
Plus que de la prédiction de branchement, c'est vraiment qu'on fait l'ensemble des calculs en parallèle et qu'ensuite l'enjeu, ça va être de trouver le bon résultat parmi tous les calculs qu'on a fait en parallèle.
Et ça marche, ça ?
Alors oui, ça marche. Alors il y a les règles qu'on a citées qui peuvent être limitantes sur certains de ces aspects. Mais l'idée, c'est qu'on va tirer parti du principe de superposition, pour mettre dans un état de superposition des particules. Alors déjà, il va falloir choisir quel est le support de notre qubit. En informatique classique, un bit est en mémoire ou dans un registre dans le processeur. Là, il va falloir trouver un support déjà de stockage, c'est la première chose à faire, pour stocker notre bit quantique. Donc un support de stockage qui soit capable de stocker l'état d'une particule élémentaire, y compris si cet état est dans un état de superposition. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on peut prendre comme support? Un photon de lumière. Il peut être polarisé, hein, c'est-à-dire qu'on le fait passer à travers un filtre, horizontalement ou verticalement. Donc on peut se dire par convention, si le photon le polarise horizontalement, il vaut 0. Si on le polarise verticalement, il vaut 1. Et puis, si on le polarise de façon oblique, et si on le mesure ensuite avec un filtre rectiligne, bah on aura une chance sur deux, ou une probabilité de mesurer le photon, qui sera variable entre 0 et 100%.
Et ça, on arrive à le faire.
Alors ça serait la vision en optique, en physique optique, mais on peut le faire ça avec d'autres supports, par exemple des ions aussi, des ions qu'on peut polariser, ou des supraconducteurs, comme ça a été fait récemment par D-Wave. Après, une fois qu'on a ce support de stockage et qu'on arrive à maintenir dans un état de cohérence, hein, donc c'est-à-dire sans interaction avec l'extérieur, puisque la moindre mesure ou la moindre collision en fait avec un atome ou avec de la lumière ou avec un champ magnétique, etc., peut figer les choses. Hein. Il faut vraiment garder les particules dans leur état le plus élémentaire possible, donc dans leur état de superposition, jusqu'au bout du calcul. Et c'est simplement au bout qu'on va être autorisé à faire la mesure pour matérialiser en fait une caractéristique de la particule. Mais il faut qu'on entretienne donc cet état de cohérence quantique tout le long du calcul, et donc qu'on isole bien l'environnement de calcul de l'environnement extérieur. Et c'est vraiment ça le défi à l'heure actuelle, et c'est ça qui est le plus difficile d'un point de vue implémentation technique.
Est-ce que c'est testable? C'est-à-dire, est-ce que tu sais si tu as réussi à maintenir cet état de stabilité?
Alors oui, tout à fait, oui. Il y a des façons de tester. Hein. Il y a ce qu'on appelle le protocole de Bell, qui par plusieurs mesures va permettre de tester si ces particules sont dans un état de superposition ou si elles ont été figées par une mesure ou par une décohérence pendant le calcul, hein, ce qu'on appelle le protocole de Bell. On vérifie par inégalité triangulaire, en fait, un certain nombre de mesures.
Et comment est-ce que tu sais que tu es arrivé au bout du calcul?
Alors, donc on a parlé du support de stockage, hein, ces fameux qubits. Après, on va faire des opérations presque classiques, on va dire, avec ces qubits. C'est-à-dire qu'on va appliquer des portes logiques, comme on fait en informatique traditionnelle, des « et », des « ou », des « xor », si on veut, des « if », hein, des tests logiques, pour réaliser donc un certain nombre d'opérations booléennes, hein, sur ces qubits, à ceci près que en fait les portes quantiques ont une petite particularité, elles doivent être symétriques, réversibles. C'est-à-dire que comme j'ai isolé totalement mon environnement de calcul de l'environnement extérieur, je peux pas avoir d'apport d'énergie ou de déperdition d'énergie, et donc tous les calculs que je réalise en fait d'un point de vue thermodynamique, ils ont un bilan nul, et donc tous les calculs sont réversibles. Donc autrement dit, par exemple, une porte E n'existe pas, puisque si le résultat d'un E est faux, je peux évidemment pas retrouver quelles étaient ses entrées. Donc autrement dit, il y a une conséquence fondamentale à ça, c'est que les portes logiques qu'on va pouvoir appliquer sont des portes réversibles, c'est-à-dire qu'elles ont autant de qubits en entrée qu'en sortie. On peut pas trouver des portes avec deux entrées et une sortie, typiquement. Ça n'existe pas. Par contre, avec deux entrées et deux sorties, c'est possible, ou avec une entrée et une sortie, c'est possible, ou plus globalement, avec n entrées et n sorties, c'est possible. Toute porte, en fait, réversible, qu'on peut écrire sous forme d'une table de vérité totalement réversible, peut être créée, hein, d'un point de vue quantique, avec un dispositif physique, et on peut implémenter toute porte de cette nature-là.
Et est-ce qu'on a, on a su réécrire toutes sortes d'algorithmes, ou il y a des algorithmes qu'on n'arrive pas à écrire?
Alors, un ordinateur quantique, on va dire universel, on expliquera après peut-être les deux types d'ordinateurs quantiques qui existent, mais un ordinateur quantique universel peut arriver à simuler n'importe quel type de calcul classique, hein, d'où le terme universel. On montre très facilement qu'avec 3 ou 4 portes quantiques, 3 ou 4 types de portes quantiques, on arrive à recréer l'ensemble des tables de vérité possibles, et donc l'ensemble des algorithmes qu'on peut appliquer à une entrée à n bits pour avoir une sortie à n bits. Voilà. Donc avec 3 ou 4 portes quantiques, on arrive à tout reconstruire. Donc il suffit juste d'implémenter ces 3 ou 4 types de portes quantiques avec un dispositif physique, et on y arrive. Et effectivement, tout algorithme, on va dire classique, peut être transcrit dans le monde quantique. Par contre, il peut être complexe à écrire dans le monde quantique, et donc il n'est pas forcément plus performant dans le monde quantique que dans le monde classique avec un ordinateur classique, pour le coup.
Est-ce que ça permet d'introduire des nouveaux algorithmes ou des nouvelles façons de calculer?
Alors, effectivement, on a déjà d'une part tous les algorithmes classiques, on va dire, qui peuvent être implémentés dans un ordinateur quantique, hein, avec une efficacité toute relative pour certains. Mais il y a aussi des algorithmes qui sont purement quantiques. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, des algorithmes qui n'ont pas d'équivalent dans le monde classique. Et on peut faire des choses assez étranges, voire même des choses qu'on penserait impossibles à faire d'un point de vue algorithmique, avec des algorithmes qui sont purement quantiques. Alors je prends un algorithme qui est assez connu dans le monde quantique, qui est l'algorithme de Grover, par exemple. Ben, il permet de rechercher parmi n éléments qu'on a dans une table, dans un tableau, l'élément qu'on recherche en seulement racine de n opérations, même si les n éléments ne sont pas triés. Hein. Donc vous avez n éléments qui sont rangés dans un ordre quelconque. Vous cherchez un élément parmi ces n éléments-là. Ben, en seulement racine de n tests, vous allez trouver le bon élément en moyenne. Donc des choses qu'on peut absolument pas faire, hein, avec un algorithme classique ou en algorithmie classique. Où il faudrait n sur 2 tests en moyenne pour trouver le bon élément parmi n éléments non rangés.
Tu parlais de différents types d'ordinateurs quantiques. Alors quels sont-ils justement?
Alors effectivement, il faut bien distinguer les différents types d'ordinateurs quantiques, parce qu'il y a eu des annonces médiatiques ces derniers temps avec des choses qui ont ou qui seraient réalisées, qui ont été annoncées. Mais il faut bien distinguer deux choses. Il y a les ordinateurs quantiques d'une part universels, sur lequel on peut réaliser tout type de calcul et on peut implémenter tout type d'algorithme quantique. Donc par exemple l'algorithme de Shor, qui permet de factoriser des clés RSA, ou l'algorithme de Grover, hein, dont on vient de parler, hein, qui permet de rechercher un élément parmi n en racine de n test. Ça, ce sont les algorithmes qui sont purement quantiques, et qui sont réalisables sur des ordinateurs quantiques dits universels. Donc universel, ça veut dire qu'on peut réaliser tout type d'opération sur les qubits, qu'on a tous les degrés de liberté, donc qu'on peut implémenter tout type de porte, et donc derrière tout type d'algorithme quantique. Alors, à opposer aux ordinateurs quantiques dits adiabatiques. Adiabatiques sont des ordinateurs thermiques, hein, qui ont été introduits par notamment la société canadienne D-Wave, dont on a pas mal entendu parler ces dernières années, sont en fait des ordinateurs quantiques qui sont restreints à un seul type de problème, à savoir faire de l'optimisation de fonctions. Donc ils vont savoir uniquement chercher le minimum que prend une fonction sur un intervalle. Donc uniquement faire de l'optimisation numérique de fonctions. Hein, on a une fonction qui est assez complexe à étudier. Je sais pas, par exemple... on modélise la carrosserie d'une voiture et puis on cherche une forme optimale pour réduire les frottements avec l'air. Il y a pas mal de paramètres possibles, hein, de formes que peut prendre la carrosserie, mais on cherche à minimiser le frottement, donc on écrit cette fonction, elle est très complexe, évidemment, et on a plein de paramètres qui peuvent varier en même temps, et on cherche à minimiser les frottements. Bah, typiquement, les ordinateurs quantiques adiabatiques vont savoir faire ce travail-là, parce qu'ils ne sont dédiés qu'à la résolution de problèmes de type recuit simulé où on cherche le minimum d'une fonction numérique assez complexe. Mais on ne pourra pas exécuter des algorithmes quantiques classiques type Grover ou Shor dont on vient de parler avec ces ordinateurs-là. Donc ils sont restreints à de l'optimisation numérique.
D'accord. Tu nous expliques pourquoi on dit un ordinateur quantique adiabatique?
Alors adiabatique, ça veut dire qu'il fonctionne par équilibre thermique. Alors comment ça marche? Ça va être un ordinateur qu'on va refroidir, hein, très très froid, puisqu'il va fonctionner avec des supraconducteurs. Hein, les supraconducteurs, donc ce sont des matériaux qui conduisent l'électricité, le courant sans résistance, hein, parfaitement, dans lequel les électrons circulent librement et indéfiniment même. Tant que le matériel est supraconducteur. Et des supraconducteurs, bah, ils fonctionnent à très basse température. Donc, en fait, un ordinateur quantique adiabatique va fonctionner à très très basse température. Hein. C'est le cas de D-Wave, l'ordinateur de la société canadienne éponyme, qui contient en fait des petites boucles supraconductrices qu'on appelle des jonctions Josephson. Et il en contient dans son dernier modèle 1024, hein, puisqu'il est 1024 qubits. Donc on a 1024 petites boucles supraconductrices qui sont refroidies à très très basse température. D-Wave annonce d'ailleurs qu'ils ont recréé un froid plus extrême, encore plus froid que le vide interstellaire. Donc on est vraiment sur l'endroit le plus froid de l'univers dans l'ordinateur quantique de D-Wave. Tout ça pour que, en fait, les boucles supraconductrices se comportent de manière supraconductrice et que le courant circule à la fois dans le sens des aiguilles d'une montre, dans ces boucles-là, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tant qu'on ne l'a pas mesuré. Donc on est dans un état de superposition, cette fois-ci, électromagnétique. Et, et l'idée... c'est de faire des allers-retours avec un ordinateur classique. Donc c'est pas un ordinateur qui est 100% quantique, c'est un ordinateur qui est composé d'un ordinateur quantique, donc avec ses boucles électromagnétiques refroidies à très très basse température, et un ordinateur classique. L'idée, c'est que l'ordinateur quantique va fournir un ensemble de qubits lorsqu'on mesure hein, ces boucles électromagnétiques, lorsqu'on fait une mesure. On a un ensemble de 0 et de 1 qui remonte. On va évaluer la fonction à cette valeur-là avec un ordinateur classique à côté. Et on va, en fonction, on cherche à minimiser donc cette fonction-là, et en fonction du résultat, si on est très proche d'un minimum ou pas, en fait, on va changer légèrement la température de fonctionnement de l'ordinateur adiabatique pour en fait obtenir une solution qui est soit très proche, soit beaucoup plus éloigné. Si on est très très loin d'un minimum, donc si la fonction elle prend une grande valeur, ben on va faire varier beaucoup la température pour aller à un autre endroit de la fonction. Si on est à déjà proche d'un minimum, hein, si la fonction est proche de zéro, on va faire varier que très très légèrement la température de l'ordinateur adiabatique, et on va refaire une mesure. Et de manière itérative, comme ça, on va s'approcher de plus en plus de la valeur optimale de la fonction. Donc ça, c'est un fonctionnement itératif par ajustement successif de température, par évaluation donc de la fonction sur un ordinateur classique, et on influence ensuite la température de l'enceinte pour obtenir un ensemble de bits qui est soit très proche, soit très loin des précédentes mesures qu'on a pu faire. Et de cette manière-là, en fait, on va très rapidement converger vers l'optimal de cette fonction-là, vers le minimum de cette fonction-là, ou vers le maximum, puisque quand on sait faire le minimum, évidemment, on saura faire très facilement le maximum en prenant la fonction opposée.
Et ils ont gagné combien de temps dans ce genre de calcul, par exemple ?
Alors, c'est très difficile de donner une réponse définitive à cette question-là. Pourquoi ? Parce que ça dépend quel type de fonction on évalue. Donc là, récemment, c'était le 8 décembre dernier, donc il y a 2 semaines, hein, Google, qui a acheté un ordinateur quantique adiabatique à D-Wave. Il y a Google, mais il y a aussi la NASA et Lockheed Martin, qui est la plus grosse entreprise privée militaire au monde. Donc ces trois entreprises-là, au minimum, hein, il y en a peut-être d'autres qu'on ne connaît pas, mais ces trois entreprises-là ont un ordinateur quantique adiabatique D-Wave. C'est une petite bête hein, qui vaut quand même entre 10 et 15 millions de dollars. Hein, donc c'est pas permis à tout le monde d'en avoir un, surtout que c'est assez encombrant, hein, c'est un gros congélateur. mais les performances relatives sont difficiles à mesurer parce que ça va dépendre de la fonction qu'on évalue et surtout d'un modèle de fonctionnement qu'on appliquera à un ordinateur classique. C'est-à-dire que pour rechercher le minimum d'une fonction avec un ordinateur classique, on va pas forcément utiliser le même type d'algorithme qu'avec un ordinateur quantique. Mais par contre, si on essaye de faire des parallèles hein, et donc de faire une recherche de minimum par une méthode de Monte Carlo, par exemple, sur un ordinateur classique, ben on est sur des algorithmes qui sont très proches et très similaires de ce que fait un ordinateur quantique. Et donc, on peut faire de la simulation de quantum annealing, ça s'appelle l'algorithme réel qui tourne dans l'ordinateur quantique, d'un point de vue simulé sur un ordinateur classique. Et quand on fait ça, on se rend compte que l'ordinateur quantique, effectivement, est bien plus rapide que l'ordinateur classique. Google a cité des chiffres, mais sur un problème à 1024 bits, donc trouver la valeur des 1024 bits qui permettent de minimiser une fonction, en fait, on est 100 millions de fois plus rapide qu'un ordinateur classique, auquel on impose une recherche de minimum avec un algorithme similaire, hein, qui est un algorithme de Monte Carlo pour faire du recul simulé. Donc c'est pas forcément les meilleurs algorithmes qu'on sait faire sur ordinateur classique, mais ça permet de comparer deux choses qui sont comparables. Donc les 100 millions, voilà, il faut les relativiser, c'est par rapport à un algorithme comparable qui est pas optimal sur un ordinateur classique.
Mais quand il parle d'ordinateur classique, c'est à coût comparé avec la le prix du matériel, le prix de la consommation électrique pour le refroidissement.
Alors le coût d'acquisition, c'est 10 à 15 millions de dollars pour un ordinateur quantique 1024 qubits, sachant que encore une fois, c'est pas un ordinateur quantique universel, hein, celui-ci. On pourra parler des universels après. Donc on ne fait que de la minimisation de fonctions avec ce type d'ordinateur, donc c'est utile pour faire de l'optimisation aérodynamique par exemple, de l'optimisation de portfolio bancaire, hein, choisir des combinaisons d'actions pour minimiser des risques de volatilité, ce genre de choses, donc pour des problèmes industriels numériques, vraiment à proprement parler. Et en ce qui concerne la consommation de la bête, en fait ça consomme beaucoup moins que si on prend les mêmes ordres de grandeur, que 100 millions d'ordinateurs classiques, ou même qu'un supercalculateur qui aurait la puissance de 100 millions de machines. Donc à performance équivalente, on consomme beaucoup moins. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a juste besoin de refroidir une toute petite enceinte dans laquelle donc on a ces boucles électromagnétiques supraconductrices. Il faut juste refroidir une petite enceinte. Et j'ai envie de dire que l'ordinateur quantique, il est 1024 qubits, 2048 ou 4096, la taille de l'enceinte ne varie pas énormément plus, alors qu'on a une puissance qui devient exponentielle. Parce que quand on rajoute un qubit, on double l'espace de solution qui est exploré à chaque fois, puisque tous les qubits sont dans un état de superposition. Hein. C'est comme quand on ajoute un bit à une clé, on double son espace de clé. Ben là, c'est exactement pareil. Et comme on a vu, en fait, un ordinateur quantique ne consomme pas d'électricité puisqu'il est totalement isolé de son environnement extérieur. Donc, il n'y a pas d'apport d'énergie pendant le calcul ou d'énergie qui est même rejetée pendant le calcul puisque l'enceinte est totalement isolée de l'environnement extérieur. Donc, en fait, la seule consommation de courant quasiment, hein, un peu de chose près, à epsilon près, c'est vraiment conserver une enceinte bien hermétique et bien refroidie dans certains cas, donc c'est le cas de l'ordinateur à diabète.
Il y a pas un paradoxe là.
On consomme beaucoup moins puisque théoriquement, en fait, d'un point de vue thermodynamique, il ne faut pas apporter d'énergie. Donc le calcul ne consomme pas d'énergie, ne rejette pas d'énergie, donc c'est un ordinateur même bio parce qu'en fait, il n'y a pas de déchets du calcul qui est produit.
Il rejette pas de carbone.
Voilà, on ne rejette pas quoi que ce soit, on ne consomme pas quoi que ce soit. Il y a juste à isoler correctement l'environnement de calcul de l'extérieur pendant le calcul pour conserver la cohérence quantique.
Il n'y a pas un paradoxe là, on produit de l'information sans énergie.
Il n'y a pas de production d'information. Encore une fois, tous les calculs sont réversibles jusqu'à la mesure. Toutes les portes sont donc symétriques, hein, et on peut partir d'un état de calcul final, remonter à l'état initial, de la même façon qu'on déroule le calcul à l'endroit.
D'accord. Et quand tu fais la mesure, il y a de l'énergie qui est changée.
Par contre, quand on fait la mesure, il va falloir apporter des particules ou des photons externes à l'environnement de calcul, hein, pour observer. On va faire interagir en fait ces particules avec des particules dont on connaît l'état, donc soit des photons dont on connaît la polarisation, soit des ions dont on connaît la polarisation, soit des atomes dont on connaît l'état d'excitation. Donc on va faire interagir ces particules qui sont dans un état de superposition avec des particules qui sont pas dans un état de superposition parce qu'elles ont déjà été observées. Et ça va faire effondrer donc l'état de superposition. Et on va rentrer donc dans un état de décohérence, ce qu'on appelle la décohérence quantique. Et là, on ne peut plus inverser ce processus-là, par contre, à ce moment-là, une fois que la mesure est faite.
Alors, quid des ordinateurs universels ?
Alors, ça, c'est très intéressant parce que l'ordinateur quantique universel, lui, il posera des grands enjeux de sécurité dans les années à venir, hein, les décennies à venir, on peut dire, parce que l'ordinateur quantique universel n'est plus limité à des problèmes d'optimisation numérique, hein, comme on a pu voir, mais l'ordinateur quantique universel va pouvoir faire tourner des algorithmes qui sont dangereux et qui menacent directement la cryptographie actuelle. Alors, on a parlé de Grover, hein, par exemple, qui permet de rechercher un élément parmi n en seulement racine de n tests. Qu'est-ce que ça a pour conséquence, l'algorithme de Grover? Par exemple, d'explorer un espace de clés beaucoup plus rapidement qu'en faisant une énumération classique des clés, donc en faisant du brute force classique. Typiquement, si on implémente, par exemple, un AES avec des portes quantiques, si on cherche à casser une clé AES 128, on implémente donc sous forme de circuit logique, hein, encore une fois, avec des portes quantiques, l'algorithme AES, et on va être capable de chercher la bonne clé parmi les 2 puissance 128 en seulement 2 puissance 64 recherches, itérations, essais, puisque l'algorithme de Grover permet de réduire l'espace de clé et faire seulement racine de n test au lieu de n. Donc en fait, ça, l'algorithme de Grover a pour effet immédiat pour tout ce qui est chiffrement symétrique de diviser par 2 les tailles de clé utiles. Hein, AES 128 devient aussi peu efficace qu'il y a un AES 64 ou l'équivalent d'une clé de 64 bits. Ça divise systématiquement donc toutes les tailles de clés symétriques par 2. Ça, c'est l'effet immédiat de l'algorithme de Grover. L'algorithme de Grover est générique et s'applique à tout type de recherche. Hein. Donc, on fournit un oracle qui dit si oui ou non l'élément est le bon, un oracle logique. Et en fait, on va itérer en quelque sorte et on va être capable de trouver avec une transformée de Fourier quantique directement l'élément qui nous intéresse. En faisant massivement donc des tests en parallèle. Donc encore une fois, tester une clé de 128 bits, c'est pas 2 puissance 128 tentatives, mais 2 puissance 64 qui change pas mal le débat justement pour les clés de 128 bits.
D'accord, mais est-ce qu'il existe des ordinateurs donc quantiques universels stables en dehors de, je crois, il y a le projet de l'université de Bristol où ils étaient à quelques qubits, genre 4 qubits, je crois. En dehors de ces travaux-là, est-ce qu'il y a d'autres choses stables qui peuvent être utilisées et donc vendues dans le commerce comme les adiabatiques?
Alors, sur les ordinateurs quantiques universels, c'est beaucoup plus compliqué à développer. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque qubit doit être capable d'interagir avec tous les autres qubits. Hein, donc, il faut positionner des portes virtuelles entre chaque qubit et tous les autres, ce qui fait une combinatoire de portes programmables qui est très très importante. Et qui grossit en n au carré, grosso modo. En fait, c'est un peu plus que ça. Et donc, ce qui limite beaucoup, beaucoup le développement du nombre de qubits des ordinateurs quantiques universels. Donc, comme tu l'as dit, effectivement, il y a un projet très intéressant de l'université de Bristol qui a construit un ordinateur quantique optique, pour être plus précis, opto-électronique. Donc, avec simplement des lasers, hein, des fibres optiques. Et puis des photodiodes à la sortie qui permet de faire des calculs universels sur 4 qubits. Alors il y a une version même grand public hein, qui est disponible sur le web. Il y a un projet qui s'appelle Quantum in the Cloud, puisque maintenant la mode est de tout mettre sur le cloud. Donc l'université de Bristol a ouvert ce projet Quantum in the Cloud. Il y a un simulateur qui est en ligne. Et on peut même accéder réellement à l'ordinateur quantique après avoir fait une demande de jetons. Avoir un slot de calcul hein, d'une dizaine de minutes de calcul une fois qu'on a fait ses premiers tests sur le simulateur et qu'on a bien compris comment ça marche, puisque ça nécessite quand même une petite prise en main, on peut lancer ces calculs universels hein, et on peut programmer donc les portes sur ce petit circuit pour arriver à faire n'importe quel type de calcul quantique. Alors la version grand public a fait 2 qubits. Les chercheurs ont une version 4 qubits à leur disposition. Et puis après, il y a des labos, mais qui sont ultra restreints et qui ne fonctionnent pas en permanence parce que l'environnement est complexe à préparer, sur lequel on arrive jusqu'à une quinzaine de qubits à l'heure actuelle pour des ordinateurs quantiques universels. Donc on est loin hein, des ordinateurs quantiques adiabatiques sur l'ordre de grandeur, parce qu'au niveau adiabatique, on est à 1024 qubits. D-Wave a même annoncé un prochain à 2048 qubits, et ils ont même, par fierté, annoncé que en fait, ils arriveraient à doubler le nombre de qubits tous les ans pendant 10 ans. C'est ce qu'a annoncé D-Wave.
C'est la loi de Moore D-Wave.
C'est une sorte de loi de Moore quantique. Mais on peut supposer qu'aussi, pour les ordinateurs quantiques universels, ça soit presque le cas. Hein. C'est-à-dire qu'il y a fort à parier que tous les 18 ou 24 mois, on arrive aussi à doubler le nombre de qubits d'ordinateurs quantiques universels. Et c'est ce qu'on constate, hein. C'est ce qu'on constate à peu près jusqu'ici, parce qu'on est arrivé à 16 qubits. Grosso modo, il y a un an et demi, c'était plutôt 8. Il y a un an et demi, c'était plutôt 4. On constate aussi à peu près cette même loi sur les ordinateurs quantiques universels, avec des forts progrès sur des ordinateurs pourtant qui ont des formes très différentes. Il y en a qui sont partis sur de l'optique, comme l'université de Bristol. L'avantage de l'optique, c'est que la lumière, en fait, elle interagit très peu avec son environnement. Donc, il n'y a pas besoin de typiquement de la mettre dans un environnement froid ou refroidi. Un laser, il est guidé par une fibre, même à température ambiante, il n'y a pas de problème, et surtout un laser ne va pas interagir aussi avec la lumière extérieure ou ambiante. Donc on n'a pas toutes ces contraintes-là, et l'ordinateur quantique optique est sans doute très prometteur. Il y a des équipes qui sont parties sur des ions, hein, des ions qu'on emprisonne, et dont on change la polarisation avec des courants électriques. Voilà, il y a différents prototypes d'ordinateurs quantiques universels qui tournent, sachant qu'aujourd'hui, on est un petit peu limité par le nombre de qubits, puisque le record, c'est une quinzaine de qubits. Et donc, on peut pas encore casser des clés RSA avec des ordinateurs quantiques universels.
C'est une question de combien de temps, selon toi ?
Alors, il y a deux choses à regarder. Il y a les évolutions technologiques, d'une part, et est-ce que ça va marcher ? Alors la plupart des spécialistes, hein, d'ailleurs même des industriels, parce que quand on demande l'avis de Google, ils parlent de 10 ans pour avoir un ordinateur quantique universel totalement fonctionnel. Et c'est à peu près ce que dit aussi IBM ou d'autres qui se sont lancés dans la course. Donc 10 ans pour avoir quelque chose d'à peu près fonctionnel, hein, reprogrammable à souhait, qui nécessite pas derrière des heures ou des jours de préparation pour que l'environnement soit fonctionnel. Il y a donc cet horizon de temps à avoir à peu près en tête. Et puis d'autre part, après, il faut avoir un ordinateur quantique où il y a suffisamment de qubits, parce que si vous avez que 16 qubits pour faire du calcul, c'est très très limité, et on pourra pas faire des choses très intéressantes avec 16 qubits, puisque ça revient à analyser 65 000 possibilités en parallèle, ce qu'on peut très bien faire au final avec un ordinateur classique à l'heure actuelle. Alors on a parlé des impacts sur la crypto symétrique avec l'algorithme de Grover. Il y a des impacts sur la crypto asymétrique aussi avec l'algorithme dit de Shor. L'algorithme de Shor en fait permet de factoriser des entiers, donc de trouver la clé privée à partir d'une clé publique. Et les clés publiques à l'heure actuelle elles font environ 1024 bits, voire plus hein, pour certaines, 2048 ou 4096. Et il faut certainement beaucoup plus de qubits que cette simple taille du nombre sur lequel on veut calculer, puisqu'il y a tous les calculs intermédiaires. Et à l'heure actuelle, même si le nombre de qubits nécessaire est à peu près logarithmique hein, pour casser une clé RSA, en fait, il existe un algorithme qui casse efficacement une clé RSA qui fonctionne en temps polynomial, en temps et en espace polynomial, qui est l'algorithme de Shor. Donc il a pu être testé sur des petites clés, hein. Pour l'instant, on a cassé par exemple la clé RSA 21, 3x7. C'est le record du monde avec un ordinateur quantique universel, donc ça va pas très très loin. Mais on a pu tester que cet algorithme fonctionnait parfaitement bien et fonctionne en temps polynomial. Par contre, casser une clé par exemple de 1024 qubits nécessiterait environ 500 000 qubits. Donc on est encore très très loin d'arriver à le faire en pratique. Donc quand on atteindra le seuil des 100 000 qubits environ, on commencera à pouvoir menacer de la crypto asymétrique très très sérieusement. Très très sérieusement.
Et à ce moment-là, alors comment est-ce qu'on... Quel type de crypto on utilisera ? De la crypto quantique ?
Alors, c'est très intéressant comme question. Alors, déjà, il faut distinguer les différents types de crypto et les différents dangers qui pèsent dessus. Pour ce qui est de la crypto symétrique, on a vu, il y a l'algorithme de Grover qui permet de diviser par deux les tailles de clés. Donc, basiquement, un AES 128 se retrouvera avec la puissance d'un algorithme de 64 bits. Un AES 256 se retrouvera avec la puissance de chiffrement d'un AES 128. Par contre, on a montré que l'algorithme de Grover était optimal, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais faire mieux avec un algorithme quantique. Autrement dit, bah, il suffit, pour rester à l'abri d'attaques quantiques dans les algorithmes de chiffrement symétrique, de doubler toutes les tailles de clés actuelles. Si on double toutes les tailles de clés actuelles, on reste totalement à l'abri d'attaques quantiques pour le futur. Parce qu'on ne saura pas faire mieux que l'algorithme de Grover, qui est déjà montré mathématiquement optimal. Donc pour ce qui est de la cryptosymétrique, on va dire, elle est menacée à échelle 10-15 ans, mais on a une solution, c'est de doubler les tailles de clés. Et comme ça, on reste normalement très à l'abri d'attaques quantiques. Pour ce qui est de la crypto-asymétrique, c'est beaucoup plus compliqué. La crypto-asymétrique, comme on a vu, il y a l'algorithme de Shor et ses variantes qui fonctionnent aussi sur des courbes elliptiques, typiquement, qui permettent de casser en temps, cette fois-ci, polynomial. Donc on n'est plus en temps quadratique, racine de n, mais on est en temps polynomial, c'est-à-dire en log de n au cube ou à puissance 4. Mais on reste en temps logarithmique. Donc du coup, on sait casser efficacement, en fait, la crypto-asymétrique et doubler la taille de clé, bah, ça changera pas grand-chose, parce que ça va, grosso modo, multiplier par 4 ou par 8 la taille de l'ordinateur quantique à construire pour casser la taille de clé, mais on y arrivera toujours, dans des temps raisonnables de quelques années. Donc en fait, doubler les tailles de clé, ça servira pas à grand-chose, les doubler, à moins de les doubler vraiment très régulièrement, tous les 6 mois ou autre, mais en fait, la crypto-asymétrique, elle est condamnée à ne plus exister quand on aura des ordinateurs quantiques efficaces, parce que simplement, bah, il y a un algorithme efficace pour factoriser les entiers, donc qui permettra de casser des clés RSA ou de casser des courbes elliptiques très simplement. Donc, la cryptosymétrique, on peut la garder. La cryptoasymétrique, il va falloir complètement la repenser. On ne pourra pas rester sur des algos asymétriques tels qu'on le connaît. Hein. Ça, c'est hors de question. Donc après, il y a deux approches. C'est soit on cherche de nouveaux algorithmes cryptographiques qui sont pas vulnérables à ce type d'attaque, ou du moins qu'on ne suppose pas vulnérables à ce type d'attaque, parce qu'encore une fois, il est possible qu'aujourd'hui, on n'ait pas trouvé d'algorithme quantique pour les attaquer, mais que demain, on en trouvera un. Donc pour l'instant, ce ne sont que des conjectures, hein, mais on a un certain nombre de solutions de secours, hein, d'algorithmes qu'on appelle post-quantum, donc de l'ère post-quantique, d'algorithmes cryptographiques qui sera résistant aux attaques quantiques, typiquement le chiffrement par réseau, et tout ce qui est à base de lattice en anglais, chiffrement à base de réseau, et on arrive à faire de la crypto asymétrique avec ce type de chiffrement aussi. Donc on a des solutions de secours. Ça, c'est si on reste dans le monde de l'algorithmie classique. Hein, donc, il y a un certain nombre de pistes qui sont explorées par les chercheurs. Et d'ailleurs, il y a une conférence qui s'appelle PQ Crypto, une conférence de sécurité PQ Crypto, qui existe déjà depuis un certain nombre d'années et qui explore les différentes voies pour remplacer les algorithmes de crypto traditionnels par des algorithmes de crypto un peu résistants à ces nouvelles potentielles attaques quantiques. Ça préoccupe aussi la NSA, hein. Vous avez entendu peut-être récemment qu'elle a conseillé d'abandonner tout ce qui était courbe elliptique, puisque considérait que ce système de chiffrement allait être vulnérable très très bientôt. Voilà. Donc, alors on ne sait pas si c'est un prétexte ou non, mais tout du moins la NSA ne recommande plus l'usage de courbe elliptique pour faire de la crypto.
À court terme,
plus directement. Ça a été retiré des préconisations, oui, tout à fait. Donc, première des voies, c'est tout ce qui est post-quantum crypto, donc les algorithmes de chiffrement post-quantique. Il y a une page sur Wikipédia qui explique bien les différentes approches, hein, qui sont potentiellement examinées à l'heure actuelle. Donc, la cryptographie multivariée, la cryptographie par réseau, la cryptographie à base de code, la cryptographie à base de hash, etc., etc. On a plusieurs types de.
Il y en a pas une d'ailleurs sur qui revient avec la crypto elliptique, mais qui est résistante.
Oui, il y a aussi des cryptos à base de courbes elliptiques, mais qui sont assez différentes de celles qu'on connaît à l'heure actuelle. Et l'autre approche, mais qui ne remplacera pas de toute façon la crypto asymétrique ou pas totalement, c'est la cryptographie quantique. Alors pour le coup, la cryptographie quantique, c'est pas de la science-fiction, parce que c'est utilisé au quotidien dans le monde, hein. Notamment par les banques suisses. Il y a plusieurs banques suisses qui ont des réseaux interbancaires de fibre optique, où il y a des échanges de transactions bancaires chiffrées en utilisant de la crypto quantique. Et on trouve à l'heure actuelle des boîtiers réseaux, hein, qu'on connecte en Ethernet de part et d'autre, qui font du chiffrement point à point quantique des messages. Et cette crypto là, non seulement elle est déjà bien industrialisée et bien utilisée au quotidien, mais d'autre part, elle est montrée comme étant inviolable. Inviolable, quels que soient les moyens de calcul et du temps dont dispose l'attaquant.
Alors, ce qui est paradoxal, c'est que tu peux faire de la crypto quantique avec des ordinateurs classiques.
Oui, tout à fait. La cryptographie quantique, là, elle est utilisée comme un moyen de défense, hein, pour se protéger d'attaques quantiques. Mais on peut utiliser la physique quantique aussi comme moyen d'attaque pour attaquer des codes classiques. Alors comment ça marche, grosso modo, pour simplifier les choses, en fait, on va utiliser le principe du masque jetable. Masque jetable, c'est d'utiliser une clé qui est aussi longue que le message qu'on veut échanger. Et ça, on peut montrer très simplement que c'est inviolable, puisqu'on n'est pas capable de différencier un message, par exemple, il fait beau, d'un message, il pleut, ou d'un message, il fait chaud, d'un message, il fait froid. Comme la clé est totalement aléatoire, en fait, le message chiffré peut contenir l'ensemble de ces quatre messages-là, il suffit juste de changer la clé pour retrouver tout clair, choisi, qu'on voudrait. Donc, dès qu'on a une clé qui est aussi longue que le message est inviolable. Après, la grande question, c'est comment on s'échange cette fameuse clé. Mais ça, on peut le faire de manière quantique. Donc, la cryptographie quantique fonctionne avec deux canaux. Un canal traditionnel, hein, qui est un canal par Internet, par exemple, où on s'échange le message chiffré. Et puis un canal quantique, qui est un canal sur fibre optique, où on s'échange la clé par des polarisations de photons. Donc on émet de la lumière et on polarise horizontalement ou verticalement les photons dans cette fibre-là. Alors, il y a un protocole particulier qui s'appelle le protocole d'échange BB84, mais après il y a d'autres variantes, qui s'assure que seul le récepteur de ces photons polarisés pourra correctement les lire, et que si un attaquant, en fait, se met au milieu de la fibre, intercepte les photons, en fait, il détruira, une fois sur deux, la valeur de ces photons, puisqu'il va faire une mesure, et en faisant la mesure, en fait, il va détruire l'état de superposition, en fait, de la polarisation, et donc, une fois sur deux, il va altérer un bit de la clé. Et il suffit de rajouter un code correcteur d'erreur, hein, à cet envoi de clé, et on peut alors détecter avec la précision qu'on veut la présence d'un attaquant qui lirait la clé. Donc non seulement on sait que si un attaquant lit la clé, il va la modifier, ce qui est quand même rassurant, mais en plus on est capable de détecter par donc un code correcteur d'erreur que quelqu'un a essayé de la lire. Donc l'attaquant sait que son attaque est vouée à échouer puisqu'il va modifier la clé, mais en plus, l'émetteur du message ou le récepteur peut être au courant qu'il y a eu une interception. Malheureuse, mais qu'il y a eu une interception quand même. Donc c'est une méthode qui est parfaite, hein, qui est infrangible, hein, d'un point de vue sécurité, si évidemment l'implémentation est correctement faite.
Et le récepteur, lui, qu'est-ce qui fait que quand il reçoit la clé, il ne l'altère pas, enfin il... Qu'est-ce qui fait qu'on sait qu'on reçoit la bonne clé, pas altérée ?
Alors après, pour comprendre bien ça, il faut se plonger dans les arcanes, hein, du protocole d'échange BB84, mais grosso modo, en fait, on va choisir, lors de l'envoi, l'émetteur va émettre des photons polarisés, donc horizontalement, verticalement ou obliquement. Il va choisir deux schémas d'envoi différents. Donc en fait, le 1 va être représenté de deux façons différentes, aléatoirement, et le 0 va être représenté aussi de deux façons différentes, de deux polarisations différentes. Et donc on va fabriquer une clé qui est aléatoire, mais dont les schémas d'envoi aussi sont aléatoires. Et ces schémas d'envoi-là, en fait, après l'envoi de la clé, sont envoyés en clair entre l'émetteur et le récepteur, et ils ne gardent que les schémas d'envoi et de réception qui coïncident. Alors c'est pas forcément très facile à comprendre, Grosso modo, l'émetteur choisit des polarisations, deux polarisations différentes pour émettre le 1, deux polarisations différentes pour émettre le 0. Et le récepteur, comme il ne connaît pas au moment où il reçoit le photon, le schéma d'envoi qui a été choisi par l'émetteur, il prend aussi un schéma de réception qui est aléatoire et qui peut prendre à sa guise. Donc, une fois sur deux, en fait, il va faire une mesure qui n'est pas correcte puisqu'il n'aura pas le même schéma de réception que le schéma d'envoi. Donc, il va, une fois sur deux aussi, altérer la clé. Sauf que juste après cet envoi de clé, l'émetteur envoie en clair au récepteur les schémas d'envoi qu'il a utilisés. Donc, non pas les bits qu'il a envoyés, mais les schémas d'envoi des bits qu'il a utilisés. Et le récepteur, donc, pourra garder uniquement les schémas d'envoi qui coïncident à ces schémas de réception qu'il a choisi aussi de manière arbitraire. Et il envoie ces schémas de réception à l'émetteur. Donc comme ça, en fait, on va détruire la moitié des bits de clés qui auront été envoyés. Il y en a la moitié qui seront jetés puisqu'ils vont mal être mesurés par le récepteur. Par contre, ça nous assure que il y a personne d'autre que l'émetteur et le récepteur qui a pu intercepter les photons avec un schéma correct de réception, puisque le schéma de réception est envoyé après l'émission des photons, donc quand ils ont été mesurés bien après.
Ah, parce que tu dois quand même envoyer le message, la clé et le schéma.
Oui, c'est ça. Donc ça, en pratique, pour un message de n octets, effectivement, il y a n octets de message, il y a n octets de clé, et grosso modo, il y a aussi n octets de schéma de réception qui est envoyé de l'émetteur au récepteur et du récepteur à l'émetteur pour qu'il ne garde que les schémas en commun.
Ouais, ça te fait un overhead de folie.
Il y a 4 n données envoyées pour un message de taille n. Par contre, c'est totalement incassable.
Ouais, mais c'est pas adaptable à tous les cas. Tu peux pas aller sur ton site d'e-commerce et utiliser ça, par exemple.
Alors, c'est du chiffrement point à point.
Ouais.
Donc, c'est pas du tout adapté pour Internet, typiquement, qui est de l'étoile. Par contre, pour faire du point à point, donc entre deux établissements bancaires ou deux universités ou deux sites militaires, c'est parfaitement adapté. Et ça garantit un niveau de sécurité qui est très très élevé. Et aujourd'hui, comme je disais, on trouve des équipements, des appliances prêtes à plugger qui font du gigabit ou du 10 gigabits même de façon transparente. Il suffit juste de tirer une fibre entre les deux lieux, de se plugger en Ethernet de part et d'autre, et puis l'envoi se fait de manière transparente. Hein, c'est un chiffrement par flux qui se fait de manière totalement transparente entre les deux sites. Donc c'est au niveau industriel, hein, c'est très très mature comme type de matériel. Hein. Et c'est une technologie qui est déjà pas mal éprouvée. Il y a la société suisse ID Quantic, par exemple, hein, qui commercialise ce genre de matériel.
Bon, eh bien c'était très intéressant tout ça. Est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce que tu voudrais évoquer d'autres points?
Oui, enfin ça s'annonce passionnant effectivement pour les années à venir. Donc il faudra voir hein, d'ici 10, 15, 20, 25 ans les différentes étapes hein, de progression de l'ordinateur quantique et puis les effets que ça a sur la cryptographie symétrique dans un premier temps, puis asymétrique quand on aura des ordinateurs quantiques qui seront très scalables. Mais d'ici là, en fait, tout un chacun peut pratiquer et peut s'entraîner avec des simulateurs et des frameworks en ligne. Alors au niveau des simulateurs, il y a effectivement l'université de Bristol hein, qui a mis en place Quantum in the Cloud, donc avec un simulateur web en ligne et puis possibilité d'accéder gratuitement hein, pour tous à un vrai ordinateur quantique universel. Après, il y a des frameworks aussi qui se développent beaucoup. Il y a le framework QCL qui est développé par une université autrichienne qui est très intéressant. On a un framework qui est livré avec SymPy, Symbolic Python, qui est le module Quantum de Symbolic Python qui permet de faire énormément de choses pour les amateurs de Python et qui permet de simuler des circuits, de l'optimisation, des mesures, etc., etc. Donc de programmer tous les algorithmes quantiques possibles et imaginables en Python. Et Microsoft a rejoint en fait la danse hein, de la publication de ces frameworks-là, puisque il y a 3 mois, je crois, ils ont publié leur propre framework qui s'appelle Liquid, qui est disponible sur GitHub, et qui est extrêmement avancé aussi, qui permet de faire énormément de choses, y compris, encore une fois, de la simulation d'erreurs ou même de l'optimisation de circuits. C'est-à-dire, il est capable de simplifier les circuits quantiques pour en réduire la taille, le nombre de portes, le nombre de qubits, etc., etc. Donc on a des choses qui sont extrêmement actives d'un point de vue recherche et d'un point de vue outils mis à disposition des chercheurs, mais aussi des particuliers.
Bon, eh bien Renaud, un grand merci.
Ben, merci à vous.
Participation. C'était vraiment très très intéressant.
Donc rendez-vous dans 10 ans, c'est ça?
Oui, 5-10 ans, on peut espérer voir des choses déjà fonctionnelles.
Vlad?
Oui.
C'est l'heure de la minute fail?
Tout à fait.
Alors, est-ce que tu peux rappeler déjà à nos auditeurs, ce qu'est la minute fail?
Alors, le principe de la minute fail est de présenter un incident passé de sécurité en prenant du recul avec humour, mais le principe, c'est pas du tout d'accabler les gens. Donc, je ne citerai aucun nom et modifier certains éléments pour le rendre un petit peu plus discret. Donc, cette histoire prend place dans une entreprise internationale. Alors, pour donner un ordre d'idée, en gros, sur son effectif et à travers le monde, aux alentours de 100 000 employés. Donc la sécurité du poste de travail y est gérée par une suite logicielle qui assure à la fois la fonction d'antivirus mais également de chiffrement du disque. Et il y a donc une console de gestion centralisée et un agent sur chaque poste. Chaque utilisateur est lié à son poste de travail par le domaine Active Directory et les disques durs sont chiffrés avec une clé en local et une copie est conservée donc sur la console de gestion centralisée. Quand un utilisateur allume son PC, c'est du grand classique, il y a une espèce de pré-boot où on lui demande de taper son mot de passe qui permet de déverrouiller la clé de chiffrement du disque dur et Windows démarre et voilà. Donc sous Windows, ensuite il y a un agent qui se synchronise à intervalles réguliers avec la console pour se mettre à jour, récupérer sa configuration, etc. Donc c'est du grand classique et jusqu'ici tout va bien. Alors comme beaucoup de grandes entreprises, l'ingénierie est réalisé dans le pays d'origine de l'entreprise et l'exploitation est réalisée, on va dire, dans le pays de Vishnu, pour pas trop citer le pays. Un jour, il est demandé aux exploitants de supprimer, donc dans la console de gestion de la solution de sécurité, donc de supprimer un groupe, enfin une OU, sauf que l'intervenant se trompe et au lieu de supprimer juste l'OU, il supprime toute la forêt Active Directory. Alors l'effet n'est pas forcément immédiat, mais rapidement, tous les agents qui sont sur les PC se synchronisent avec la console, donc aux intervalles réguliers, et là en fait la console leur dit en gros il n'y a plus de domaine, donc tous les agents tombent dans un espèce d'état poubelle dans lequel par défaut ils suppriment leur configuration et la clé de chiffrement du disque, ce qui fait que soit le lendemain matin quand on redémarre le poste, soit au retour du déjeuner ou à la sortie de la veille prolongée, le PC au pré-boot ne pouvant plus déchiffrer le disque, enfin, ne peut plus déchiffrer le disque et bloque complètement. Donc, les pannes suivent les fuseaux horaires et arrivent par vagues de milliers à travers toute la planète. Par miracle, un ingénieur sécurité dans le pays d'origine de l'entreprise avait laissé son poste en veille et découvre l'incident. Alors, comme la majorité des autres sont bloqués, quasiment tout seul, il définit les procédures de restauration pour tous les exploitants locaux à travers toute la planète et pilote le rétablissement du service. Il faut démarrer chaque poste individuellement à la main avec un CD ou avec une clé USB et une ISO spécifique et la clé qui était backupée dans la console de gestion centralisée. Le problème, c'est que les exploitants locaux n'ont pas le droit de sortir les clés de la console de gestion centralisée, ce qui fait que c'est depuis le siège, entre guillemets, que l'on doit extraire toutes les clés et les communiquer aux intervenants. Donc au bout de 2-3 jours, la décision a été prise par la hiérarchie d'autoriser les exploitants locaux à récupérer les clés eux-mêmes, et ce qui fait que ça s'est terminé, donc l'incident s'est terminé au bout d'une semaine très 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 longue.
Fail. Bon, et bien on espère que cet épisode vous aura intéressé et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast. Salut.
Salut.
Au revoir.
Bye.